Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Bien heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. En deuxième partie d'émission, c'est notre série de chroniques sur l'histoire et les grands noms de la médecine et de la science qui se poursuit. Et en ce mois de l'autisme, j'ai demandé une petite commande spéciale à Christiane Campagna, notre chroniqueuse ici, pour qu'elle nous parle de quatre figures marquantes dans la notion de recherche liée à l'autisme, dont peut-être le plus connu, M. Hans Asperger. Elle sera là tout à l'heure en deuxième partie d'émission Christiane Campagna. Où ça vous dire que lorsque l'on effectue un changement à notre mode de vie, ça suscite parfois une onde de choc? Premièrement, en premier lieu, là, bien sûr, chez nous, personnellement, parce qu'on est confronté soit aux bienfaits, on se dit « pourquoi j'ai pas fait ça avant? » Mais aussi, on observe les difficultés qui sont liées à ce changement-là. Mais aussi une onde de choc auprès de nos proches, et particulièrement quand ce changement est lié à la nourriture, parce que la bouffe, c'est lié à notre culture, à notre enfance. C'est très, très personnel, très intime, la nourriture. Et lorsque l'on décide de devenir vegan, que ce soit par souci environnemental, pour notre santé ou encore par respect des animaux, ça peut confronter les autres dans leur propre choix. Et les saisonniers que vous connaissez, que vous aimez probablement, parce que moi, je l'aime bien. Il vient tout juste de sortir un livre la semaine dernière, Le défi vegan 21 jours. C'est un petit bouquin très pratique pour mieux vous outiller si vous avez envie de faire ce virage vegan. On lui parle à l'instant. Allô, Élise.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ça me fait vraiment plaisir.
Pour la sortie de ce livre, Le défi vegan 21 jours, qui est, comme je le disais, très pratico-pratique, peut-être parce qu'il découle de vraies interrogations. C'est un livre que vous avez écrit suite aux questions de gens qui faisaient Le défi vegan 21 jours.
Oui, en fait, j'ai déjà écrit deux essais que j'écrivais pour moi. Je me posais des questions sur les conséquences de notre alimentation, sur l'environnement, sur les travailleurs, sur les animaux. J'ai écrit Je mange avec ma tête. Je réfléchissais à l'omniprésence des produits laitiers dans la société. J'ai écrit Vache à lait. Là, je voulais simplement aider les gens parce que souvent, on va être d'accord avec les arguments, mais donc on est d'accord avec le pourquoi, mais le comment est un peu plus compliqué. Et puis oui, il y a des milliers de Québécois qui ont fait les trois premières éditions du Défi vegan, qui ont posé plein de questions. Puis depuis, sept ans, huit ans, je rencontre des gens, je donne des conférences et il y a des questions qui reviennent toujours et c'est des questions qui n'ont pas de réponse publiée si facilement que c'est ça. On a des livres de recettes, on a des livres d'arguments, mais il n'y avait rien encore sur le marché québécois qui montrait comment changer ses habitudes et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là.
Oui, puis c'est bien que vous le spécifiez parce que là, on est loin de Vache à lait, on est loin de Je mange avec ma tête, c'est-à-dire pas nécessairement dans la recherche. Oui, il y a des notions, pas nécessairement dans la science. Oui, évidemment, c'est parsemé, c'est sérieux cet ouvrage, mais on est vraiment dans l'accessibilité. Et en premier lieu, ce que l'on comprend, c'est qu'être vegan, ce n'est pas juste lié à la sphère alimentaire. Ça va au-delà de ça.
Oui, l'idée derrière le défi vegan 21 jours, c'est un peu comme un séjour d'immersion. Ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est essayer pendant 3 semaines pour voir ce que c'est. Puis évidemment, en 3 semaines, on ne va pas changer sa vie au complet. Mais c'est une bonne occasion de mieux comprendre les enjeux derrière le véganisme. Donc, quand on parle de véganisme, on parle d'alimentation sans protéines animales, donc sans viande, sans poisson, mais aussi sans lait, sans œufs. Et ça, ça va être le gros du défi. Si on enlève la viande, les œufs, qu'est-ce qui reste? Puis qu'est-ce qu'on rajoute? Mais c'est aussi l'occasion de s'ouvrir les yeux sur les autres formes d'exploitation animale. Puis être vegan, c'est refuser toute forme d'exploitation animale. Donc, on va parler dans le guide, par exemple, du test des cosmétiques sur les animaux, qui est une aberration, l'exploitation des animaux pour leur fourrure, l'exploitation des animaux pour leur cuir, des trucs dont on parle assez peu parce que c'est pas des réalités qui nous nous excite. On ne veut pas le savoir, mais si on est végane pour des raisons environnementales, par exemple, on devrait peut-être aussi refuser de porter du cuir ou de la fourrure, parce que juste d'un point de vue environnemental, c'est assez catastrophique. Donc, je donne dans le guide des pistes aussi pour aller plus loin, pour réfléchir. Si on se donne 3 semaines où on change son alimentation, profitons-en pour apprendre d'autres choses.
Et vous attisez notre curiosité parce qu'il y a plein de suggestions de livres également à la fin de chaque paragraphe, même dans plusieurs pages, des suggestions de lecture pour aller plus loin dans notre réflexion. C'est important de dire que vous incitez pas les gens à acheter leurs vêtements en laine, leur chandail de laine ou quoi que ce soit. Non, c'est petit pas par petit pas.
C'est petit pas par petit pas. Ça, toutes les études en psychologie nous le montrent. Pour changer, on faut y aller par petit pas. N'importe quelle habitude, ne serait-ce que décider d'aller au gym, ce qui est un gros défi pour moi ces temps-ci, ou n'importe quel autre changement, il faut y aller par petits pas. Et lire, apprendre des choses, c'est une façon aussi d'avancer vers ça. Donc, le guide est très, très simple. Il va se lire en quelques heures. C'est aussi séparé en petites sections, donc on n'est pas obligé de lire ça tout d'un coup. Ça peut être une lecture sur plusieurs jours, mais avec des pistes pour aller plus loin, parce que souvent, certaines lectures vont susciter des questions, puis on va vouloir en savoir plus. Donc, je voulais garder le livre simple, mais avec une ouverture pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et approfondir leurs connaissances.
Oui. Séparé donc en différentes catégories, il y a une vingtaine de recettes à la fin, mais en premier lieu, sur les différents aspects, pourquoi il peut être bien de faire ce virage vegan, tout d'abord sur la santé, notre santé personnelle.
Oui, donc on pourrait être végane ou végétalien pour des raisons purement égoïstes pour notre santé. On sait, et ça on en parle de plus en plus, que l'alimentation végétalienne peut prévenir et même renverser certaines maladies comme les plus fréquentes en Occident quand on parle de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 par exemple, le développement de certains cancers. Ça peut être prévenu par l'alimentation végétalienne. On a vu des gens qui avaient un diabète de type 2 qui ont arrêté de prendre leurs médicaments parce qu'ils ont changé leur alimentation. Donc ça, c'est assez impressionnant. Évidemment, il ne s'agit pas juste de remplacer la viande par des chips, là. On parle d'une alimentation équilibrée.
Ou même de la salade, parce que manger de la salade ne serait pas approprié non plus.
Bien, aussi bien de boire de l'eau, mais ça ne suffit pas, là. Donc, ça demande quand même un changement majeur. On parle d'aliments entiers. On parle d'une alimentation diversifiée avec très peu d'aliments transformés. Ça réduit aussi l'exposition aux bactéries, aux métaux lourds qu'on trouve dans la viande. Et puis on sait que les végétaliens ont une masse corporelle, un poids moins élevé que les omnivores. Donc, si on cherche à perdre du poids, ça peut aussi être une bonne chose. Donc, c'est bon pour la santé. Et ça, c'est quelque chose dont on commence à parler, mais qui est assez récent. On a souvent pensé que les végétariens, végétaliens étaient à risque de carence et qu'on mettait sa santé en danger en adoptant un régime vegan. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt le contraire. Évidemment, il faut être prudent. Puis il y a plein de petits détails auxquels il faut penser qui ne sont pas si compliqués, mais il faut le savoir. Ce qu'on dit moins, c'est que les omnivores sont plus carencés que les véganes, notamment en termes d'apport en fibres. Les fibres sont super importantes pour notre digestion, pour la santé intestinale, et une large proportion des omnivores manquent de fibres. Et ça, on n'en parle pas. Donc, les omnivores qui me demandent où je trouve mes protéines, je vais leur demander à eux où est-ce qu'ils trouvent leurs fibres.
Ouais. Je trouvais ça intéressant dans le livre, Élise, parce qu'il y a un passage où vous dites souvent le régime végétalien, c'est associé à un régime sain. Donc, sans produits laitiers, sans œufs, sans viande. Mais il y a façon de renverser ça pour le voir aussi d'une façon plus positive.
Oui, donc c'est une alimentation avec beaucoup de végétaux qui sont riches en toutes sortes de vitamines et de nutriments. Donc, c'est riche en légumineuses. Et là, 2016, c'est l'année des légumineuses.
Voilà.
On ne mange pas assez de légumineuses. C'est la meilleure source de protéines qui soit. Il y a des fibres, il y a tout là-dedans. Et les légumineuses, c'est large, là. On les connaît pas. Et puis, je me suis fait plaisir dans le livre, à la fin, en mettant les tableaux de trempage puis de cuisson des légumineuses.
Oui.
Parce que j'essaie d'en consommer de plus en plus, moi aussi. Et j'étais tannée de toujours chercher sur Google. Puis, je me rappelle jamais, là, je l'ai à la fin de mon livre. Et ça va me servir à moi. Même chose pour les céréales. On connaît assez peu les différentes céréales qu'on peut intégrer à son alimentation. De plus en plus, mais millet, quinoa, tout ça, au-delà du riz blanc, il y a plein de céréales qu'on peut découvrir. Et puis, tous ces légumes, là, au-delà de la laitue iceberg qu'on peut intégrer dans son assiette, les noix aussi. Donc, quand on enlève la viande, il faut le voir comme une opportunité de rajouter plein de nouveaux aliments.
Une cuisine qui est variée, on le comprend bien lorsqu'on parcourt votre livre, Élise, et en même temps, je trouve un régime qui donne envie de cuisiner. Vous le dites même dans votre parcours au départ, là, cuisiner, il y a quelques années, c'était pas nécessairement votre habitude préférée.
À part le samedi soir avec des amis, mais sinon, non.
Et ce mode-là vous a amené à cuisiner davantage.
Oui, et puis j'ai des semaines assez chargées, et puis j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, et j'ai toujours pas tant de plaisir que ça à le faire. Il y a des gens qui adorent cuisiner, moi pas du tout. Et j'ai découvert des trucs pour bien manger chez moi, des plats préparés à la maison, des trucs que je partage dans le livre, par exemple, préparés d'avance. On parlait de céréales, du riz entier, du millet, des trucs comme ça. Si j'en prépare pour un repas, en fait, j'en préparais pour 2-3 repas et je vais en laisser dans le frigo. Comme ça, ben, par la suite, pour me préparer un bol, par exemple, j'aurais déjà du riz, j'aurais déjà du tofu qui est déjà grillé. Je vais juste prendre tout ça, mélanger, ajouter une petite sauce, puis j'ai un super dîner.
Oui. Aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le régime vegan, végétalien, peut, en fait, oui, régime végétalien, je pense qu'on le dit mieux ainsi, peut être approprié pour bien des gens, c'est-à-dire même les femmes enceintes, même les enfants, c'est possible.
Absolument. Ben là, c'est ça, je ne suis pas nutritionniste. Sur ces questions-là, je me tourne vers les recommandations officielles et l'Association des diététistes du Canada et des États-Unis le rappelle, c'est approprié à tous les stades de la vie. Donc, femmes enceintes, femmes qui allaitent, bébés, enfants, même les sportifs de haut niveau aussi. Et ça, il y en a de plus en plus. Des amis qui font de la course à pied d'un point de vue un peu plus professionnel me disent qu'autour d'eux, parmi les coureurs, il y en a beaucoup. Au Québec, Mégane Duhamel, qui est la championne du monde en patinage en couple, en patinage artistique, est végane pour des raisons morales depuis plusieurs années. Elle, j'avais fait une entrevue avec elle il y a quelques années, puis elle m'avait dit, quand elle est devenue végane, les nutritionnistes de l'équipe olympique canadienne lui ont dit, ta carrière est finie. Là. Je pense que si tu ne manges pas de viande, tes performances vont s'en ressentir. Puis, elle performe encore mieux qu'avant. Puis, elle a 30 ans maintenant, donc pour une carrière sportive, en général, c'est le déclin. Et elle est meilleure d'année en année. Mais j'ai dit, oui, mais évidemment, toi, tu as des nutritionnistes qui te suivent, puis tu as des shakes spéciaux, puis des trucs. Et en fait, non. Elle mange la même chose que moi. Elle se prépare ses repas sans calculer les nutriments. Puis tout ça, elle mange à sa faim. Puis c'est quelqu'un qui s'entraîne 6 heures par jour.
Et qui performe.
Et qui performe. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Georges Larac aussi, comme dans un autre extrême corporel, qui est à peu près le double de moi.
Ah, c'est un géant, Georges Larac. Ouais.
Et puis qui est végétalien, ça n'empêche pas d'avoir une bonne masse musculaire.
Oui. Donc, d'un point de vue peut-être plus égoïste, comme on le disait, pour notre santé personnelle, mais il y a aussi des bienfaits pour notre environnement, à savoir que, en fait, si on diminue notre quantité de viande, on diminue aussi le gaz à effet de serre.
Oui. Bien ça, l'ONU nous demande de réduire de 50% notre consommation de viande d'ici 2050. Et là-dessus, tout le monde répond, mais moi, je ne mange pas beaucoup de viande. Oui, mais il faut réduire quand même de 50%. Il faut savoir que l'élevage est responsable de 14 à 18% des émissions de gaz à effet de serre. On ne pourra pas rencontrer les objectifs d'augmentation de 2 degrés de réchauffement climatique sans changer drastiquement notre alimentation. Il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de viande si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Et à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a déjà, autant que possible, adopté le transport collectif quand c'est possible. On éteint les lumières, on ferme le chauffage.
On ferme le robinet lorsqu'on se brosse les dents. Ouais.
Mais après, c'est vraiment des tout petits gestes quand on regarde l'impact que peut avoir notre alimentation. Par exemple, on cherche à manger local depuis plusieurs années au Québec, c'est super bien, mais il vaut mieux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de manger végétalien une seule journée par semaine que local tout le temps. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir. Même chose pour l'eau. Dans un litre de lait de vache, il y a 1000 litres d'eau qui rentrent là-dedans, compte à peu près 300 litres dans un litre de lait de soya. C'est des proportions énormes. Là. Donc, il vaut mieux se passer, par exemple, de se passer de douche pendant 6 mois et l'équivalent en eau de 500 grammes de bœuf. Donc, on a le choix entre couper 500 grammes de bœuf ou de douche pendant 6 mois. Je pense que couper le bœuf est préférable.
Il y a aussi tout l'aspect lié à la cruauté envers les animaux. Souvent, on va se faire dire « Ouais, mais bon, les poules qui pondent des œufs, elles ne souffrent pas quand elles pondent. Encore une vache, ça donne du lait, c'est normal. » Vous avez des arguments aussi pour
ça. Oui, bien, effectivement, une poule pond naturellement des œufs. Dans l'élevage, par contre, il n'y a pas grand-chose de naturel. Les poules sont enfermées dans des cages. Elles sont 6 par cage. Chacune a un espace qui est plus petit que celui d'une feuille mobile. Elles ne peuvent pas ouvrir leurs ailes. Elles ne peuvent pas se déplacer ni exprimer leur comportement naturel. Et après 2 ans, quand leur productivité diminue, on les envoie à l'abattoir. Donc, oui. Bon. Il n'y a pas de différence entre les poules qu'on va manger en poulet et les poules pondeuses. Il faut aussi savoir que, bien évidemment, les mâles des poules pondeuses ne pondent pas et ils n'ont pas la bonne génétique pour devenir des poulets de chair. Donc, on les broie à la naissance. Il y a énormément de cruauté dans la production d'œufs. Le lait, c'est la même chose. Une vache ne produit pas naturellement du lait. C'est comme n'importe quel mammifère.
Elle doit avoir un veau pour le faire.
Elle doit avoir un veau. Son veau, ben, si c'est une femelle, va devenir une autre vache laitière. Si c'est un mâle, il va devenir de la viande de veau. La vache va passer, même dans des élevages biologiques, va passer sa vie essentiellement attachée, avec parfois un accès à l'extérieur l'été quand il fait beau. Puis après 4 ou 5 ans, quand elle a fini son cycle de donner naissance à un veau qu'on lui enlève et de donner du lait attaché à une treilleuse, ben on va l'envoyer à l'abattoir pour qu'elle devienne de la viande hachée. Donc, la filière viande, la filière lait, la filière œuf, c'est la même chose. Là, je disais dans Vache à lait qu'il y a sans doute plus de cruauté dans un verre de lait ou dans une boule de crème glacée qu'il y en a dans un steak.
Oui. Ce sont des arguments de l'information auxquels on a accès dans le défi vegan 21 jours et qui peut nous servir à alimenter nos discussions avec nos proches. Mm-hmm. Parce que, comme je le disais en introduction, quand on fait ce virage-là, un changement dans notre mode alimentaire, évidemment, on aura ce genre de commentaires. « Ah, tu manges plus rien en ce moment, on ne peut plus t'inviter. Pourquoi tu goûtes pas? J'ai fait ce plat-là pour toi. » Et j'ai particulièrement apprécié, Élise, dans le livre, ce petit guide d'autodéfense intellectuelle, à savoir comment on peut peut-être pas se défendre, mais pouvoir discuter avec ses proches qui le font par amour, mais peut-être mal. Comment on prépare nos proches à ce changement-là?
Mais c'est important de dire que les proches, quand ils argumentent avec nous, ils le font par amour. Et on peut le voir par confrontation, mais je pense que si les gens nous disent « mais tu manges rien, as-tu pensé à ton apport en fer, tu vas être correct », c'est parce qu'ils nous aiment et qu'ils tiennent à nous. Donc ça, c'est important de le voir. Il faut se mettre à la place des omnivores et comprendre leur défense. Donc ça, c'est la première des choses. Dans le guide, je donne des exemples pour discuter avec eux, pour mettre fin aussi aux discussions quand on en a envie, mais aussi des réponses à donner, parce que c'est pas parce qu'on on devient vegan qu'on devient spécialiste de la nutrition et des questions environnementales et des questions éthiques. Et puis, les omnivores qui nous entourent, eux, ils s'attendent de nous qu'on soit ces spécialistes-là.
Mais oui, surtout que si on le fait, par exemple, pour notre santé, pour contrer, par exemple, notre diabète, ben on connaît peut-être pas nécessairement les questions plus éthiques, environnementales ou envers la cruauté des animaux. On connaît pas nécessairement l'entièreté du sujet.
Donc, j'ai pris les questions qu'on me posait le plus souvent, mais qui sont les questions les plus fréquentes. Et si on arrête de manger les animaux, est-ce qu'ils vont nous envahir, par exemple? Des questions comme ça, puis je donne des petites réponses simples. L'idée, c'est pas que les gens apprennent ces trucs-là par cœur. Je suis pas en train de dire aux gens quoi répondre, mais je veux leur donner des outils pour se défendre et encore là aussi pour aller plus loin. Mais c'est important, je pense, de comprendre que les gens qui remettent en question nos choix le font souvent par curiosité. Ils entendent parler de véganisme, ils en ont jamais vu autour d'eux. Puis, ben, à quelque part, ils se sentent peut-être confrontés. Ouais. Si moi, je dis que je suis végane pour des raisons environnementales ou par compassion avec les animaux, je suis peut-être en train de dire à toi que tu n'es pas une bonne personne.
Ouais.
Et on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre qu'on n'est pas des bonnes personnes. Donc, il y a plein de mécanismes psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Nier qu'il y a un problème, mais voyons donc, tu sais, les vaches ne souffrent pas quand elles donnent du lait. Ou mépriser aussi les choix des véganes. Leur dire, ben il y a quand même d'autres problèmes plus graves. Il y a des enfants qui meurent de faim. Tout ça, c'est peut-être aussi des mécanismes de d'autodéfense de la part des omnivores pour ne pas se sentir mal, de ne pas, eux, être en train de faire la transition.
Et vous leur dites même dans ce livre, et je trouvais ça très bien, on peut choisir nos combats. On n'est pas toujours obligé de répondre. Et c'est correct simplement de faire un beau sourire puis de changer un autre sujet.
Oui, de trouver des sujets sur lesquels on s'entend. Les repas de famille peuvent facilement devenir des discussions autour du véganisme d'une personne à table, alors qu'on peut parler tellement d'autres sujets qui nous unissent.
Oui, et nos relations sociales et humaines sont bien plus importantes que bien d'autres
Absolument.
Choses. Le défi vegan 21 jours, il y en a un qui commence le 1er mai,
oui.
Élise.
Donc, c'est un défi collectif où plusieurs centaines, milliers de Québécoises, Québécoises vont décider ensemble d'essayer d'adopter une alimentation végétalienne pendant 3 semaines. Ils vont recevoir des trucs à chaque jour, des conseils, des chats, toutes sortes de trucs comme ça. On va s'inscrire à ledéfivegan21jours.com.
Voilà.
C'est complètement gratuit.
On le mettra sur notre site.
D'accord.
Le défi vegan 21 jours, c'est aussi chez Trécaré, par vous, Élise Desauniers, auteure que j'aime beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Allô, Christiane Campagna.
Allô.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
En ce mois de l'autisme, j'avais cette commande, cette envie. On avait en fait envie d'explorer des figures marquantes, des chercheurs qui sont liés à l'avancée, bon, de l'autisme. En même temps, c'est important, je trouve, d'en discuter parce qu'en ce moment, au Québec, on est vraiment des chefs de file ici en matière de recherche de l'autisme, mais il y a des gens qui ont mis des balises avant et ben, qui ont fait des recherches là, pour nous. Là.
En fait, ce que j'ai trouvé est représentatif de la situation dans la mesure où c'est encore en développement. On sait qu'il y a quelques années, on est passé de troubles envahissants du développement à troubles du spectre de l'autisme. Le syndrome de Rett qui en faisait partie avant et maintenant à l'extérieur de cette catégorie-là, mais ça demeure changeant, on continue de discuter les choses. Et en effet, dépendamment si on parle de l'Amérique ou de l'Europe, comme par exemple, on va parler tout à l'heure de thèse psychanalytique un peu, c'est toujours cité quand même dans certains écrits européens. Pourtant, les noms que je vais vous donner aujourd'hui, à part un chercheur qui a fait sa carrière aux États-Unis, ce sont des Européens. En fait, je vais vous parler d'un Suisse et de 3 Autrichiens.
Ouais.
Il semble que la pédopsychiatrie et les choses connexes étaient très forte dans le monde allemand en général pendant un bon moment. On avait vu qu'Irma Ladouceur le mois dernier avait été se former en Allemagne pour la pédiatrie.
C'est vrai, c'est vrai. Merci de nous le rappeler d'ailleurs. Ce qui est frappant lorsque l'on lit vos recherches, c'est que d'abord, l'autisme, c'est considéré comme de la schizophrénie.
En fait, oui, c'est comme un symptôme ou une sous-catégorie de la schizophrénie pour celui qui va être le premier à utiliser ce mot-là. Mais plus je lis, plus je me rends compte qu'il ne décrivait pas nécessairement les mêmes personnes, probablement. Mmh. C'est qu'on doit le terme à Eugène Bleuler, qui est un psychiatre suisse, un professeur de psychiatrie à Zurich, qui a eu d'ailleurs parmi ses élèves Carl Jung, qui a connu Freud. Et c'est à lui qu'on doit le mot. En fait, on lui doit 2 mots très importants. C'est lui qui est allé chercher dans les racines grecques pour créer le mot schizophrénie et créer le mot autisme. Dans le cas de schizophrénie, il est allé chercher des mots qui signifiaient fractionnement et esprit. Et dans le cas du terme autisme, la racine veut dire soi-même. Parce que lui, il l'a d'abord utilisé pour décrire une espèce de repli sur soi des personnes souffrant de schizophrénie. Et là, dépendamment des sources que je lisais au début, je me disais, bien, ils classaient les personnes autistes avec les schizophrènes. J'en suis de moins en moins sûre à mesure que je lis. C'est que j'ai l'impression qu'ils décrivaient une certaine attitude des personnes qui vivent avec la schizophrénie, qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, parce que lui parle vraiment même d'un repli volontaire. Donc, probablement pas qu'il parlait, il a probablement pas analysé les mêmes patients que les autres chercheurs que je nommerai un peu plus loin et qui, eux, vont plutôt analyser des enfants tout d'abord. Mm-hmm. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette distinction qui va se faire avec le temps, c'est que la schizophrénie, au contraire, se développe généralement à partir de la vingtaine.
Oui. Alors, jeune adulte.
Voilà. Ouais. Alors que. Pour l'autisme, on va parler de choses qui apparaissent dès l'enfance. Mais c'est intéressant, quand je l'ai recherché à propos des racines grecques, je suis allée sur c'est une espèce de dictionnaire en ligne, mais très pointu, que je consulte souvent, qui est le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Mm-hmm. Et dans leur première définition de l'autisme, par contre, eux disent encore que c'est l'attitude mentale spéciale ou schizophrène comme définition de l'autisme. Alors, je me dis, il y a encore... peut-être que dans la science, on est avancé, mais dans une espèce de culture plus populaire, on confond encore. Les sources citées dans ce lexique-là dataient des années 60 et 70. Et j'ai même vu passer d'autres écrits des années 70, même plus récents, en Europe, qui parlent encore de causes psychanalytiques, quand même, pour l'autisme.
Il reste 3 minutes, donc c'est un défi, Christiane, parce qu'il nous reste 3 chercheurs. Oui. Le deuxième, Léo Canard, qui, lui, peut-être je le prononce pas tout à fait comme il faut, mais lui, s'est intéressé à la pédopsychiatrie, justement.
Voilà, c'est lui qui a diagnostiqué l'autisme plus classique. D'ailleurs, on va dire aujourd'hui autisme de Canard, et il est allé chercher le terme de Bleuler pour décrire ce que lui venait de trouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que lui... En Allemagne, il y a Hans Asperger qui observait aussi des jeunes garçons et qui, pour décrire leur attitude, est aussi allé chercher ce terme qu'avait utilisé Bleuler. Donc, ils sont allés chercher le vocabulaire, mais pour diagnostiquer autre chose. Du côté de Canard, plus les symptômes qu'on identifie à l'autisme plus classique, tandis que du côté d'Asperger, ben, c'est un symptôme qui portera son nom plus tard. Les enfants qu'il a observés, il les appelait ses petits professeurs à cause de leur fixation sur des sujets et du fait qu'ils en parlaient beaucoup. Sauf que lui avait écrit en allemand, a été publié seulement en allemand, et ça ira aux années 80 avant que ses écrits soient découverts par une auteure britannique qui s'appelle Lorna Wing, et c'est elle qui va dire le syndrome d'Asperger pour décrire ces cas-là. Et c'est en 91 que son article marquant, celui où il décrivait ça, a été traduit en français par Uta Frith.
Et en terminant, Andreas Rett, bon, qu'on utilise peut-être un petit peu moins maintenant parce que ce chercheur était davantage associé aux troubles envahissants du développement et on n'utilise plus ce terme.
En fait, c'est que depuis qu'on a changé de terme, le syndrome de Rett ne fait plus partie des troubles autistiques, mais le syndrome, lui, existe toujours. Il y a la petite fille d'une de mes amies qui a été diagnostiquée récemment, et c'est surtout des filles qui sont touchées dans ce cas-là, et on doit ça à un chercheur allemand. Mais un autre chercheur prononçait une conférence là-dessus quand il s'est levé dans la salle des années plus tard. La personne, le scientifique dont vous parlez, c'est moi. Et par générosité, l'autre chercheur a donné le nom de syndrome de Rett.
C'est quoi les symptômes, très rapidement?
C'est particulièrement, il observe, attendez un petit peu, là, c'est assez complexe, mais c'est comme une... Il y a une régression chez ces petites filles-là, la perte du langage et des mouvements répétitifs des mains. Ça, c'est ce qui est symptomatique pour ce qui est de l'identifier.
Mais OK. Pas... Bon, bien, merci beaucoup en ce mois de l'autisme d'avoir un beau portrait de ces 4 figures marquantes en matière de recherche. C'était très intéressant. Ça nous permet de comprendre bien des choses. Merci, Christiane Campagnat. Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, Marianne Paquette au micro. À demain. Portez-vous bien.